Chapitre 63. Confidence. Dimanche, 20 août 2000, 2h35, souterrain de l'île de Mornecey. Brigitte resta un long moment, le regard baissé, sans pouvoir ajouter un mot supplémentaire. Le cellier ressemblait à un sordide confessionnal, une poisseuse chambre mortuaire destinée à recueillir les dernières volontés d'un condamné. Enfin, son visage se redressa, presque imperceptiblement, et elle parla à nouveau, d'une voix très lente.
« C'est difficile, Colin. Tu ne le sais peut-être pas, mais j'étais très amie avec ta mère, Anne, ma belle-sœur. Nous étions presque les seules femmes, pendant toutes ces années, sur l'île de Mornecey, dans cette association de fouilles archéologiques. Nous avions le même âge, alors forcément cela nous a rapprochés. Je pense que tu sais déjà tout sur l'association. Maxime t'a tout raconté, lorsqu'il s'est fait passer pour ton père, sur la plage de la Cricomauve. Il n'a presque pas menti. Cela rendait son récit plus cohérent. Il t'a dit exactement ce que t'aurait dit ton père s'il était encore vivant. Ton père était vraiment quelqu'un de bien, d'intègre, impur. Il refusait de vendre le terrain de l'abbaye. Il tenait tête à la Sémitime. Puis, il y eut l'accident, la mort des trois ouvriers.
Tout cela, je le savais déjà. Je cherchais toujours un moyen de fuir. Impossible par ce cellier. Prendre une de ces bouteilles de vin poussiéreuses, la casser, m'en servir d'arme. Ridicule.
Brigitte toussa légèrement pour s'éclaircir la voix. La suite de mon récit, tu ne la connais pas. Ton père assuma l'ensemble de la responsabilité du drame, puis disparut en mer après avoir laissé une lettre d'adieu et d'aveu. Tout le monde le croyait mort, nous aussi. Pour soulager ta mère, Thierry et moi, on t'a emmené avec nous en région parisienne, un appartement de fortune à Pontoise. Je ne sais pas si tu t'en souviens.
J'essayais de ne pas penser à ce qu'elle me racontait, de trouver un moyen de m'échapper. Je répondis malgré moi.
Un peu. Ta mère vint nous rejoindre le soir même. Elle était aussi anéantie.
Je revoyais ces dernières images de ma mère, ces dernières paroles, dans mon bain, dans mon lit. Le récit de ma tante faisait remonter en moi des images indélébiles. Brigitte continua.
Après le repas, elle nous a demandé si elle pouvait téléphoner. C'était un téléphone sans fil. Elle s'est isolée sur le balcon, mais...
Elle se tut. Elle avait eu du mal à aller plus loin. J'en fus presque ému. Je sentais que ce coup de téléphone avait fait basculer sa vie.
Mais quoi ?
Brigitte toussa à nouveau.
Mais il y avait un autre téléphone dans notre chambre. Thierry l'a décroché et a écouté. Ta mère parlait à Jean, ton père. Il n'était pas mort, il se cachait. Il enquêtait discrètement. L'accident des sanguinaires était en réalité un sabotage, un attentat. Il possédait désormais des preuves contre Jean-Louis Valerino, l'homme de l'ombre de la mairie, et ses complices.
Elle ne parvint pas à aller plus loin. Des larmes coulaient sur ses joues. Jamais je ne l'avais vue si humaine.
Qui étaient ses complices ? Les membres de la Sémitime ? Tous les escrocs de l'île ?
Brigitte sourit.
Non, Colin, c'est beaucoup plus simple. Cette histoire d'île de truands, tous mauvais, tous complices, c'est une fable. Les membres de la Sémitime étaient de braves actionnaires qui cherchaient seulement à s'enrichir. Des gens du coin prêts à investir leurs économies dans un projet immobilier, certes sans trop respecter l'environnement, mais bon, ça ne faisait pas d'eux des criminels. Non, l'affaire ne fut montée que par trois complices. Jean-Louis Valerino, le cerveau de l'affaire, qui s'occupait de la partie administrative, et les deux plus proches associés de ton père, Maxime Prieur, son ami de fac, et Thierry, son beau-frère.
Pourquoi ? Articulai-je. Brigitte marqua un silence. Dans la pièce d'à côté, j'entendais les voix sourdes de Maxime Prieur et de Valerino, tendues et nerveuses. Les deux hommes semblaient excédés par l'attente. Brigitte respira fortement et reprit.
C'est compliqué. C'est un mélange de beaucoup de choses. La jalousie envers ton père, sans aucun doute.
Maxime et Thierry avaient toujours vécu dans l'ombre de sa gloire, sous ses ordres, pour ainsi dire.
La cupidité aussi. Le projet immobilier de la Sémitime devait rapporter énormément, en pot de vin, si Maxime et Thierry parvenaient à convaincre ton père de vendre le terrain. Tu sais, à ce moment-là, il n'était pas question de meurtre, même pas de vol. Il s'agissait simplement de vendre un terrain et de toucher de l'argent. Seul Valerino était une véritable ordure. Lorsque ton père a contré la Sémitim avec son projet du groupe Eurobuild, c'est Valerino qui a pris l'initiative de saboter le tunnel sous la grue. Avec la complicité de Maxime et Thierry, pour les détails techniques sur les souterrains, ajoutai-je d'une voix blanche. Oui. Avec leur complicité, tu as raison. Mais il n'était question que d'un accident, une menace, des dégâts matériels, ni morts ni blessés. Mais ça a mal tourné, et Maxime et Thierry se sont retrouvés en situation d'être accusés de complicité de meurtre. L'engrenage était enclenché. Il ne s'est plus arrêté depuis. Je demandais, de la même voix blanche. Qu'a dit exactement mon père à ma mère, ce soir-là, au téléphone ? Il lui a demandé si elle était seule. Puis, comme je te l'ai dit, il lui a parlé de preuves qu'il réunissait contre Valerino et ses complices. Il disait à ta mère de se méfier, d'être prudente. Ton père devait penser qu'il s'agissait d'un complot beaucoup plus important, beaucoup plus puissant. Ton père imaginait toutes les éventualités. Il réunissait toutes les preuves dans un dossier. Il allait mettre ce dossier en sécurité chez le notaire de l'île de Mornecey, Maître Bardon, en qui il avait confiance. S'il arrivait un malheur à ton père ou à ta mère, ou aux deux, ses ordres étaient clairs. Le notaire devait te convoquer, toi, Colin, son fils, 10 ans plus tard, le jour de tes 16 ans, pour te révéler la vérité et te confier le terrain de l'abbaye. Ton père était méfiant. Il avait raison. Brigitte sanglota doucement. Tout s'éclaircissait dans ma tête. Après avoir raccroché le téléphone, ma mère était venue me voir dans mon lit. À ce moment-là, elle savait que mon père était vivant. Cela expliquait ses dernières paroles. « Ton papa est parti loin, Colin. Très loin. Mais ne sois pas triste. Il faut être patient. Tu le reverras. Tu le retrouveras un jour. » Il était encore vivant alors. Toute ma certitude venait de là. Une colère terrible montait en moi. Prendre une bouteille de vin, la briser, enfoncer le tesson dans la gorge de Valerino, dans celle des autres ensuite. Je lançai d'une voix forte. « Alors vous avez tué ma mère ?»« Non !» cria presque Brigitte. « Non, Colin ! Ta mère a raccroché, est venue te voir dans ta chambre. Puis elle a repris la route vers Mornecey. Elle avait tout à régler, la succession, le procès. Ton père était présumé mort. Nous avons paniqué, c'est certain. Nous avons téléphoné à Valerino pour le prévenir. Mais jamais l'idée de tuer ta mère ne nous serait venue. C'était la sœur de Thierry, ma meilleure amie. C'est un accident, Colin. Elle était exténuée, il était tard, il pleuvait. On l'avait dissuadée de reprendre la route si tard. C'est un accident. Un terrible accident. Encore cet engrenage. Je marquai une courte respiration. T'es peut-être sincère, mais je crois plus à ce genre de coïncidence. Jean-Louis Valerino a tué ma mère, sur le chemin de l'île de Mornecey. J'espère juste qu'il ne te l'a jamais avoué à toi et à Thierry. Je l'espère pour toi. Brigitte tremblait. Non, Colin. Jean-Louis Valerino ne nous a jamais avoué un tel acte. C'est une ordure, d'accord, mais aller jusqu'à un tel crime, non, c'est impossible. Je répliquai froidement. Ne rien demander. Pensez que c'était un nouvel accident, ça vous arrangeait bien. Ça faisait beaucoup d'accidents, non? Mais puisque Jean-Louis Valerino est prêt aujourd'hui à supprimer le fils, pourquoi n'aurait-il pas tué la mère il y a 10 ans? Brigitte marqua un nouveau silence, ponctué de sanglots. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Dans ma tête, cela a toujours été un accident. C'est comme ça qu'on a raisonné, Thierry et moi. Après le décès de ta mère, Maxime Prieur et Jean-Louis Valerino nous ont contactés. Ton père était passé sur l'île de Mornecey. Il avait déposé un dossier chez le notaire et s'était suicidé en haute mer. Pour de bon cette fois-ci. Il n'y avait pas de doute. On a retrouvé son corps quelques jours plus tard. Il était encore parfaitement reconnaissable. J'étais présente, Thierry aussi. Oui, Colin. N'en doute plus maintenant, ton père est mort.
Le vide. Faire le vide. Ne plus penser à rien. Écouter simplement. Brigitte poursuivit.
Tu étais orphelin. On nous confia naturellement ta garde. Mais nous restions tous les quatre avec cette bombe à retardement qui devait exploser 10 ans plus tard. Ce dossier que tu allais ouvrir à 16 ans et qui donnait les preuves de notre culpabilité commune. Cette menace a rendu fou Jean-Louis Valerino et Maxime Prieur. Thierry aussi. Un dossier qui pouvait les perdre, les envoyer en prison, les accuser de meurtre. Sans parler de la folie Mazarin, ce trésor que ton père prétendait avoir trouvé. Les indices, les preuves se trouvaient forcément dans ce dossier chez le notaire. Une fortune. Ils avaient couru après depuis si longtemps, à fouiller tous les souterrains de l'île. Sans l'espoir de mettre la main sur ce trésor, ils auraient tous quitté ton père et ses vieilles pierres depuis longtemps. Les premiers mois, Prieur et Valerino ont tenté de cambrioler l'étude de Maître Bardon. Sans succès. Le notaire était méfiant. le dossier à l'abri. Ils ont envisagé de le corrompre, de le menacer, de le faire chanter. Mais Valerino et Prieur connaissaient bien ce vieux fou de Serge Bardon. Ils savaient qu'il appliquerait jusqu'au bout les ordres de Jean-Rémy. Alors Maxime Prieur a eu l'idée de ce plan insensé. Elle marqua un nouveau silence, cherchant sa respiration. Elle gardait toujours la tête baissée, évitant mon regard. Quelques larmes coulaient encore. Je ne distinguais de son visage, dans l'ombre, que de grands yeux noirs délavés. Son maquillage mélangeait de larmes. Elle était si différente de cette Brigitte de mon enfance, distante, vêtue de raide et maquillée même pour aller faire les courses. Mon regard dévia et s'attarda sur les bouteilles entassées dans les caisses. Brigitte continua, sans relever la tête.
Un plan complètement fou. Maxime avait presque lancé l'idée pour plaisanter, mais Valerino l'a pris au mot. Tu semblais convaincu que ton père n'était pas vraiment mort. Les derniers mots de ta mère, les mensonges de ta nourrice sur les circonstances de sa mort, il suffisait d'enfoncer le clou. Parler parfois de ton père au présent, laisser son adresse dans mon agenda, envoyer quelques cartes postales de Morne-Saëns, aiguiser ta curiosité. Tu vois ce que je veux dire ?
Non, je ne voyais pas. Je ne voyais pas le principal. Je hurlais.
Et le visage de mon père ? Comment Maxime Prieur l'a-t-il volé ?
Brigitte esquissa presque un sourire. Très facilement. Maxime est assez doué en retouche de photos. C'est son métier. Il m'a fourni 400 photographies, presque toutes les mêmes. Celles que tu as gardées 10 ans sur ta table de nuit. Sur la première des 400, il y avait le vrai visage de ton père, celui que tu reconnaissais. Sur la dernière, le visage de Maxime Prieur. Entre les deux, 400 photos et un imperceptible morphing pour passer d'un visage à l'autre. Je changeais la photographie, dans le cadre, tous les 3 jours, pendant que tu étais à l'école. J'ai fait cela pendant 3 ans et demi, jusqu'à ce que tu aies 9 ans. Un sourire, presque nostalgique, déforma à nouveau son visage. C'était devenu une habitude, banale. Je changeais la photo en même temps que je faisais la poussière de ta chambre, que je ramassais tes habits sales ou que je changeais les draps. Quelle folie ! À 9 ans et demi, tu avais oublié le vrai visage de ton père et tu l'avais remplacé par celui de Maxime Prieur. Le piège était en place. On t'a permis par la suite de trouver d'autres photos et même un film. Évidemment, des photos ou un film où l'on ne voyait jamais le vrai visage de ton père. Où il n'était pas là, ou de dos. Afin de ne pas prendre de risques, de ne pas raviver tes souvenirs. Excuse-moi, Colin. Je pourrais te dire que c'est tout de même moi qui t'ai élevé. Mais... Je coupais, indifférent. La photo profanée de mon père sur sa tombe, dans le cimetière de Morne-Saëns, c'était aussi pour ça ? Pour que je ne découvre pas son véritable visage ? Oui, Maxime Prieur s'en est chargé. Mais il n'a pas osé cambrioler la tombe de ton père pour récupérer l'alliance qu'il avait au doigt. Colin, il faut que tu me comprennes. Il n'était pas question de meurtre. Pendant toutes ces années, l'objectif était simplement qu'à 16 ans, tu te rendes chez le notaire, tu prennes ce dossier sans l'ouvrir et que tu le remettes à Maxime Prieur. Nous étions ainsi tous innocentés. Sans vol, sans meurtre, sans sang. Elle respira longuement. C'est du moins ce que je croyais. Ce que Valerino et Prieur m'avaient fait croire. Nous avaient fait croire, toutes ces années. Ce catalogue de centres de vacances sur la table du salon il y a 6 mois, c'était un coup monté ?
Oui,
fit-elle d'une voix faible. Nous étions certains que tu choisirais ce camp voile sur l'île de Morne-Saëns. Une fois sur l'île, Maxime Prieur s'est arrangé pour te croiser 2 jours avant ton anniversaire. Il a payé un marin ivrogne avec une télévision pour qu'il te raconte une histoire et te fixe un rendez-vous qui ait l'air naturel. Je n'étais au courant que de cela. Le reste, Thierry et moi l'avons découvert aujourd'hui, en arrivant.
Le reste ?
Le sordide, l'évasion de Valerino, l'assassinat de son compagnon de cavale, 2 balles dans le dos, la fausse agression de Valerino, le soir de ton rendez-vous avec Maxime pour te faire peur, pour te conditionner, t'inciter à te méfier de tout le monde et à ne faire confiance qu'à ton père, et surtout...
Brigitte ne put terminer et laissa tomber sa tête entre ses mains. Je pris le relais.
Bien sûr, il ne t'avait pas dit qu'une fois leur plan exécuté, il n'aurait plus besoin de moi et qu'il n'hésiterait pas à me supprimer. J'étais le dernier témoin gênant.
Je ne savais pas, Colin. Je ne pouvais pas me douter il y a 10 ans. Ce n'était qu'une machination. Une machination odieuse. Mais pas du sang.
Je sais. L'engrenage. Brigitte se recroquevilla encore.
Valerino est prêt à me tuer, moi aussi. Prieur est à son tour devenu un fou furieux. lorsque j'ai appris qu'ils n'ont pas hésité à t'enterrer vivant avec tes deux amis. »
Je la coupai une nouvelle fois. « Tu n'as rien dit à la police et tu as continué à me mentir. Tu t'es même aperçu dans l'infirmerie que des souvenirs à propos de la folie Mazarin semblaient refaire surface et tu en as parlé à tes complices. »
« À Thierry. À Thierry seulement. Il n'est pas comme... »
Elle s'effondra dans une crise de larmes, incapable de dire un mot de plus. Aucune haine ne montait en moi. Au contraire, tout s'expliquait. Tout était en ordre désormais. Il ne restait qu'une question. Une question dont j'avais déjà la réponse. Alors, c'est pas mon père qui passait la main sous la jupe de cette fille, cette Jessica. C'était Maxime Prieur. Brigitte releva la tête en reniflant. Elle me regarda, étonnée de ma question. Un détail imprévu dans leur effroyable machination.
Non, ce n'était pas ton père. Maxime était devenu dingue de cette gamine qu'il faisait tourner en bourrique et qu'il a plaquée après quelques semaines, quand le scandale a éclaté. Cela aussi a dû jouer dans cet engrenage. Écoute-moi, Colin. Ton père aurait été incapable de tromper ta mère. Ton père et ta mère s'aimaient. Un bonheur indécent, au point de rendre jaloux tous les autres couples en leur présence. Au point de ne pas pouvoir se survivre l'un à l'autre. Malgré cette détresse, Colin, tu es un enfant de l'amour.
Brigitte me regarda pour la première fois dans les yeux.
Voilà, Colin. Tu sais tout. J'espère que cela t'aidera à te souvenir de ce détail. La folie Mazarin. Si tu ne te souviens pas, Colin, ils vont te tuer.
Ils vont me tuer de toute façon. Je me levai, décidé à retourner dans la pièce. Valerino était la cause de tout. Il avait sans doute assassiné ma mère. Après tout, mon idée de tesson de bouteille n'était peut-être pas stupide. Brigitte ne ferait rien contre moi, ne me dénoncerait pas, je le sentais. Il me suffisait de conserver ce tesson dans ma main, dans mon dos. Avec un peu de chance, je pouvais trancher la carotide de Valerino. Je ne manquais pas de détermination. Si je tuais Valerino, peut-être que Maxime Prieur m'abattrait. Une balle dans le dos, dans le cœur. Peu importe. Peut-être aussi que tous se rendraient, me laisseraient libre. Ils avaient tous peur de Valerino. Cela aussi se sentait. Peu importait. Je regardais longuement Brigitte dans les yeux et je me penchai pour saisir une bouteille. Elle ne dit rien, ne fit rien. Il me fallait la casser rapidement. Sans faire de bruit. C'était le plus difficile. Agir. Tout de suite. Je marchais et butais sur une des caisses de vin. Je m'effondrais bruyamment. Valerino, dans la pièce voisine, se précipita.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
Brigitte était déjà sur moi, m'aidant à me relever.
« Ce n'est rien, » fit-elle. « Il est choqué, il a perdu l'équilibre. »
Valerino me regarda, méfiant, tenant toujours son arme à la main.
« C'est fini, les confidences. » Revenez avec nous.
J'avançais doucement. Valerino était debout, moins de 2 mètres devant moi. Dans mon dos, je tenais le goulot de la bouteille, cassé. Brigitte, derrière moi, ne pouvait pas ne pas le voir. Elle ne dit rien. Complice, une fois encore. Valerino n'allait pas tarder à remarquer ma main dans mon dos. Il me fallait m'avancer un peu. Encore un peu. Quelques décimètres. Et alors frapper. Frapper à la gorge l'assassin de ma mère.